Chapitre 49. Au volant de sa voiture, Juna est en route pour le commissariat de Kungsholmen. Grâce au numéro de sécurité sociale de l'araignée, on lui a confirmé qu'elle était née sous le nom de Mara Ivanovna Makarovina, mais qu'elle avait été enregistrée au service de l'état civil en tant que Mara Makarov. Elle n'a actuellement ni adresse, ni numéro de téléphone, ni emploi. Sa mère, Tatiana, était une mathématicienne de renommée internationale. Enfant, Mara vivait à Liding avec ses parents et sa sœur. Il y a 7 ans, toute sa famille est décédée dans un accident de bateau. Malgré la contribution d'un grand nombre de plongeurs, seul le corps du capitaine a été retrouvé. Juna a vérifié les registres. Il n'y a eu aucun soupçon de crime. La circulation est dense à Hornstull et ralentie sur le pont de Westerbron qui enjambe Lungholmen. Lorsqu'il arrive au-dessus de la baie de Ridar, le trafic est totalement bloqué. Juna finit par éteindre le moteur. Il voit des conducteurs sortir de leur véhicule, regarder vers l'avant au-delà des files de voitures et attraper leur portable. À la radio, Juna apprend que 2 bus sont entrés en collision devant les anciennes archives nationales et bloquent la circulation dans les 2 sens. L'eau et les bâtiments le long de Norrmalmstrand et de l'hôtel de ville sont éclairés par une douce lumière d'après-midi. Certains des automobilistes commencent à discuter entre eux. D'autres contemplent la ville et montrent du doigt des édifices à leurs enfants. Un homme âgé s'appuie sur le capot de sa voiture et allume sa pipe avec délectation. Juna reçoit un appel sur Raquel. « Tu dois venir immédiatement !» dit Manvir d'une voix tendue. « On a reçu un nouveau paquet adressé à Saga. Les démineurs sont en train de l'examiner. Je suis bloqué dans un embouteillage au milieu du pont de Westerbron. Ah ouais, c'est à cause de ces bus. Ça va prendre au moins une bonne heure avant que... Est-ce que c'est possible de passer avec une moto ?» Non, c'est complètement bloqué des 2 côtés. On t'envoie un hélicoptère. » Annonce Manvir avant de mettre fin à la conversation. Juna regarde au-delà de la balustrade qui borde la route et devine le toit en cuivre vert de l'hôtel de ville et la flèche qui surplombe le commissariat de police. Lorsque le vrombissement de l'hélicoptère s'approche, il sort de sa voiture, verrouille les portières et grimpe sur le capot. L'appareil arrive par le nord, perd un virage et se positionne en surplace au-dessus du pont. Puis il descend doucement. Les piétons s'écartent. Juna boutonne sa veste et pose une main sur ses cheveux. Un harnais est treillé le long d'un câble. Certains sur le pont ont commencé à filmer Juna dont les vêtements flottent au vent. Le grondement du rotor cogne dans ses tympans. La lumière est aveuglante entre les pales. Juna attrape le harnais et l'enfile. Lorsque le câble est tissé, il se balance un instant au-dessus du pont. Il voit s'éloigner les voitures à l'arrêt, les visages levés, la structure en fer arquée du pont et l'eau scintillante en contrebas. Il bascule en arrière au moment où l'hélicoptère prend de la hauteur. Le câble tremble violemment pendant l'ascension, puis il est tiré dans la cabine. Un collègue l'aide à s'asseoir sur un siège. Juna attache sa ceinture de sécurité et met la protection auditive. Le pilote augmente ensuite l'angle d'incidence des pales du rotor principal. L'hélicoptère se penche vers l'avant et prend de l'altitude. Il survole Kungsholmen, obtient l'autorisation de se poser et descend vers l'aire d'atterrissage située sur le toit du bâtiment de la police. Juna se précipite, le dos baissé, vers l'ascenseur qui l'attend. Lorsque les portes se referment, il s'est écoulé 3 minutes depuis le moment où, debout sur le toit de sa voiture, il a attrapé le harnais. Il descend au rez-de-chaussée et traverse la passerelle en verre qui forme un puits de lumière. Au moment où il pénètre dans la salle de réunion, les techniciens viennent de commencer à découper au scalpel le ruban adhésif qui entoure le paquet. Manvir, Greta et Peter sont déjà autour de la table tandis que l'équipe médico-légale dispose son matériel dans le silence.
« Faut juste l'ouvrir !»
hurle Juna. Il attrape le paquet, arrache le reste du ruban adhésif, déplie une serviette, puis la boule de papier froissé qui se trouve à l'intérieur et enfin un emballage de bonbons brillants. Il saisit la petite figurine en étain. Celle-ci fait 2 centimètres et représente un homme vêtu d'un manteau fin. Juna la place sur la lame du microscope et règle la mise au point et le grossissement. Un visage gris-blanc apparaît sur l'écran de l'ordinateur. De qui s'agit-il ? Aucune idée. Putain, putain, murmure Peter en passant sa main sur son menton. C'est un homme au nez droit, aux yeux enfoncés et à la bouche crispée. Le manteau est lisse, mais le pantalon fait des plis autour des chevilles. Sous ses pantoufles, il y a un morceau d'étain en forme de cône, dont la surface a été rendue poreuse par la fonte. « Envoie la photo sur Raquel !» ordonne Manvire. « Il faut qu'on vérifie avec Saga !» lance Juna. « Elle est suspendue !» Juna s'arrête et le regarde. « Tu l'as suspendue de l'enquête ?»« Jusqu'à ce qu'on ait réglé certaines choses. » « On a besoin d'elle !» crie Juna. « Mais ma décision, j'en ai rien à foutre !» l'interrompt-il en transférant à Saga une photo du visage de la figurine en étain. « Tu la lui as envoyée ?» demande Manvir, stupéfait. « Oui !» riposte Juna en étalant les trois emballages sur la table. Un papier de bonbons froissés au dos argenté, avec un dessin représentant une sirène africaine. Une petite serviette en éponge. Et la photo en noir et blanc de ce qui ressemble à un vase tressé, long et étroit.